La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à notre émission La parole des contes. Et nous continuons sur notre grande traversée dragonesque, drakienne, autour donc du drac, de la bête à sept têtes, à neuf têtes, le dragon. Et là, je nous ai trouvé deux petits contes de deux dragons, le drac et la mort du dragon, dans un livre qui s'intitule « Contes et légendes de la Camargue et des Gitans ». Alors, très chers auditeurs et très chères auditrices, pour rentrer dans l'univers des Tziganes, Yann, envoie-nous la musique. Et justement, ces trois jeunes femmes là qui chantent, que vous entendez, elles vont bientôt passer au Rockstore. Le mardi 18 mars, 25 euros la place quand même. Mais bon, moi je l'ai prise. À vous de prendre la vôtre. Et c'était il y a des millénaires. Rien ne suggérait le dessin futur du littoral camarguais. Le Rhône, au bout de sa course, lançait ses tentacules où se mêlait la mer. Et ses courants attiraient sur les bords les gardiens des troupeaux, les lavandières. Et quand le troupeau revenait seul, quand le tas de linge restait abandonné, eh ben, on mettait ses disparitions sur le compte du sol mouvant. Mais en réalité, c'était le fait du drac, le monstre qui habitait les bourbeuses profondeurs. Son énorme corps recouvert d'écailles, ses narines qui soufflaient des flammes et sa bouche qui puait. Il se nourrissait de chair et de sang humain. Voici comment il s'y prenait. Il lançait sur l'eau, près de l'endroit où l'imprudent, l'imprudente, s'était aventuré une écuelle remplie de riches monnaies ou de bijoux. Et quand l'homme ou la femme voyait cela, aussitôt il tendait la main pour saisir l'écuelle. Et l'écuelle reculait, elle reculait, reculait, reculait encore, jusqu'à ce que l'autre perdît pied et sombra dans les abîmes. Quelquefois, le drac se contentait d'emporter plus loin une pièce de linge, lâchée par la blanchisseuse et que celle-ci voulait rattraper. Ajoutons que le drac avait la faculté de se rendre invisible. Une fois, il fit coup double. Une jeune femme, Tilda, venue sur ses rives maudites avec elle, son enfant nouveau-né. Elle le plaça dans une corbeille à ses côtés pour lui donner le sein à son heure. En attendant, elle s'affairait gaiement, frottait, rinçait, tordait et saurait. Tout à coup, la corbeille où reposait le bébé se balança sur le courant. D'une main prompte, elle pensa la ramener, mais la corbeille fuyait. Éperdue, la jeune mère entra dans l'eau sans même s'en apercevoir. La suite, chers auditeurs, vous l'avez deviné. Elle se retrouva dans une chambre qu'elle ne connaissait pas, au mur de terre glaise, comme les meubles, et qu'éclairait un jour verdâtre. Et son petit, où était-il, son mignon bébé, potelé, rieur? Et elle-même, où était-elle? Appelant, criant, elle chercha la porte et ne la trouva pas. Elle frappa les murs de ses poings, mais ses poings ne faisaient que s'enfoncer dans les molles parois. Enfin, un énorme ricanement la fit se retourner et le monstre était là, le drac. Elle en avait bien entendu parler, mais alors jeune, insouciante, elle avait ri de ses récits de grand-mère et elle était face au drac. « Mon enfant, où est mon enfant? Rendez-le-moi !» Mais il ne semblait pas l'entendre. Il la fixait et ses yeux, pareils à des phares, se promenaient sur elle, de haut en bas. Puis, satisfait. Ah,
ma femme sera contente.
Mais mon enfant, où l'avez-vous mis, de grâce ? Il éclata de ce qu'on aurait pu dire un rire en même temps qu'il se frottait la panse. Et la pauvre femme tomba évanouie. Tout lui était brusquement revenu des bruits qui couraient sur le drac. Il mangeait ses victimes, buvait leur sang. Reprenant conscience, elle sut d'abord feindre d'être toujours évanouie car elle entendait parler près d'elle et elle comprit qu'il s'agissait du drac et de sa femme. Contrairement à l'espoir tout à l'heure émis par son mari, Madame Drac n'était pas contente.
« Votre stupidité risque d'avoir tout gâché. Je vous avais dit de ne pas manger l'enfant. »
Ces mots atroces ne firent pas hurler celle qui les entendit. Pas un son n'eût pu s'échapper de son gosier. Un froid de glace l'avait envahi. Ce devait être la mort. Elle s'y abandonnait.
« Votre gourmandise vous perdra !»
continua la femme du drac.
« Je vous avais demandé de me trouver une bonne nourrice pour notre cher petit. »«
Ben, c'est ce que j'ai fait !»
dit le drac.
« Ah, c'est ce que vous avez fait ! Ah, ah ! Et seulement cette bonne nourrice ! Car je veux croire que vous avez vu juste. Vous n'avez pas craint de la rendre stérile quand elle saura ?»«
Mais non ! Ah, vous exagérez ! Elle est solide ! Sinon, je remonterai vous en chercher une meilleure, et nous nous régalerons de celle-ci.
Nous lui épargnerons ainsi d'avoir à pleurer trop longtemps son propre enfant.
Assez discuté, retirez-vous. Je vais essayer de la ranimer. Ah, vous n'en ferez jamais d'autre.
Avec des gestes presque doux, la femme du drac baigna le front de la malheureuse qui ne tarda pas à recouvrer la parole. Le drac ne pouvait pas avoir pour compagne qu'un monstre de son espèce. Donc elle ouvrit les yeux, elle fut répulsée, et elle dit à la femme du drac
« Oh, tuez-moi tout de suite, que je rejoigne mon cher bébé. Vous êtes mère, vous pouvez me comprendre. »
« Calmez-vous, calmez-vous. Votre enfant n'a pas souffert, et vous ne serez pas à plaindre avec nous. » « Écoutez, nous avons un fils de l'âge qu'avait le vôtre et j'ai voulu le nourrir. Hélas, il dépérit.
Et c'est à moi, dont vous avez tué l'enfant, que vous demandez de nourrir le vôtre? Vous me croyez capable d'y consentir ?»
Elle se représentait le monstre en réduction, appliquant son ignoble gueule au sein qui avait été la source de vie d'une million de petites bouches roses. Donc la femme du drac se rendit compte qu'elle n'y arrivait pas.
« Oh, vous avez la fièvre, ma pauvre.
Tenez, ceci vous rafraîchira. »
Elle remplit un gobelet, le tendit à la mère qui était quand même en grosse dépression. Elle but, quand elle s'éveilla, elle se rappela bien qu'elle avait eu un brave mari, que sa disparition devait désoler. Mais bon, dans la potion magique qu'elle avait bu, ça l'avait coupée de tout lien avec sa gentille existence passée. Elle avait oublié son enfant, et ce lavage de cerveau partiel la laissait sans volonté. Elle accepta donc son sort inacceptable. Accomplissant son rebutant service, elle finit même par s'attacher à son petit nourrisson de drac. Monsieur et Madame Drac étaient enchantés et ils ont été charmants avec elle. Ils s'alimentaient autrement et lui donnaient une alimentation qui lui convienne. Et elle avait fini par tout oublier. Elle s'était habituée à leur compagnie, à leur odeur peu agréable. Drac Junior se développait de jour en jour. Bientôt, il n'aurait plus besoin des soins de cette nourrice. Et le drac commençait à la regarder d'un drôle d'air. Et Madame Drac ne manqua pas de s'en apercevoir.
Non, mon ami, nous avons assez de provisions. Cette femme a sauvé notre enfant. Elle mérite que nous la laissions vivre.
Et le drac trouvait que bon, c'était une chair appétissante et qu'il la commanderait comme il fallait.
Impossible, mon ami. J'ai fait un rêve étrange dont je pénètre à présent le sens caché. La santé de notre enfant dépend de la santé de sa nourrice.
C'était un argument fort pour Monsieur Drac.
Pourtant, allons-nous garder cette bouche inutile ou la renvoyer parmi les siens?
Le breuvage d'oubli n'a pas perdu de son efficacité. Nous avons fait ce qu'il fallait. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait.
Et le beau jour pour le mari de Tilda lorsqu'il la vit sur le seuil de leur masure. D'abord, il crut à un fantôme. Puis, il put vite se rendre compte qu'il s'agissait bien de sa chère femme, sa Tilda. Il était trop heureux de la revoir. Il ne lui demanda pas ce qu'elle avait fait durant ces 7 années. Il n'évoqua même pas leur enfant disparu. Vaguement, elle pensait bien, quelquefois, aux maîtres insolites qu'elle avait servis de son mieux et aux nourrissons qu'il lui avait confiés. Mais elle avait l'impression de sortir d'un rêve, dont les images se brouillaient peu à peu. Jusqu'à ce matin de grand marché, où elle vit, au milieu de l'espèce de place qui séparait les cabanes tassées là et que l'on situe de nos jours du côté où se dressera Fiélouse, qui donc? Le drac en personne. Il regardait autour de lui, l'air perplexe, et Tilda, qui ne pouvait deviner qu'il cherchait une proie, s'approcha gentiment et demanda des nouvelles de Madame Drac.
Comment? Vous me voyez? Vous m'avez vu?
Ben, bien sûr, Monsieur Drac.
Le monstre, c'est qu'il se rendait invisible, normalement. Mais grâce à une certaine pommade dont il s'enduisait. Il en avait donné un petit pot à Tilda, à l'usage de Drac Junior qu'il emmenait quelquefois avec lui. Un soir que Tilda avait passé l'onguent magique sur le corps du jeune monstre, elle se frotta l'œil droit qui la démangeait sans s'être lavé les mains. Et depuis, elle voyait le drac et les siens parfaitement au travers de la couche de pommade qui, pour tout autre, les rendait invisibles.
« Et si aujourd'hui vous me le dites ?»«
Ben, je pensais pas, non, monsieur, si j'avais su. »« Si vous aviez su, si vous aviez su. »« Et quoi, si vous aviez su ?»
Il lui plonge le doigt dans l'œil et crève son œil.
Mais il ne savait pas que par le même geste, il allait lui débloquer la mémoire. Aveuglé par le sang, rendu folle par la douleur physique et la douleur des souvenirs, Tilda, comme l'avait craint le monstre, eut au fait d'ameuter tous les hommes vaillants de l'endroit qui ne voyaient pas le drac. Son mari en tête, de gigantesques battues furent organisées. Mais le monstre ne pouvait être atteint puisqu'il pouvait toujours se rendre invisible. Et il y eut encore des imprudents pour se risquer sur les sombres bords. Et maintenant? Eh ben, maintenant, il y a certaines nuits où on ne s'explique pas que le vent déferle, écarte les vagues, les chevaux, crinières roidies, se dressent tout debout, hennissent d'épouvante. Tandis que les noirs taureaux foncent sur qui, sur quoi? Sur l'invisible drac qui sévit encore dans les bouches du Rhône, tout autour.
Et voici comment se termine cette histoire.
Venga.
Et maintenant, nous voilà dans un autre conte, toujours Tzigane, La mort du dragon, avec donc un jeune Tzigane nommé Schwartz, pauvre d'argent, riche de la fidélité de ses deux compagnons à quatre pattes, deux chiens, Mokant le malicieux et Trutz le bagarreur. Ce jour-là, en revenant de la ville, tous trois s'en retournèrent au campement et voyant qu'il était tard, décidèrent de prendre un raccourci à travers bois. À peine y avait-il pénétré qu'un écureuil du haut d'un arbre leur cria « Arrêtez-vous ! Le dragon est ici !» Schwartz avait entendu parler du dragon, mangeur d'hommes et de bêtes, avec une préférence marquée pour la chair tendre des petits-enfants. Sur l'ordre du roi avaient eu lieu des battues sans résultat, malgré l'augmentation de la prime offerte aux valeureux citoyens qui seraient venus à bout du monstre. D'après la rumeur, le dragon serait sur l'autre versant de la colline. « Écureuil, tu peux pas te tromper ?»«
Ah, j'ai pas l'habitude, et je vois loin !»
Et la pie a enchéri.
« J'ai vu briller ses yeux, comme des plaques de rubis et d'or !»
Et la chouette, de 6 mètres.
« Et j'ai entendu battre sa queue. »
Le chien Trutz dit « un dragon, ben, j'en ai jamais vu. »
« Et tu n'auras pas le temps de voir celui-ci si tu t'approches de lui !»
siffla le serpent. Malgré la suspicion à laquelle il convient de tenir quiconque de cette gent insidieuse, cause première de nos maux, le serpent, son avis eut raison des dernières hésitations de Schwartz, le Tzigane. « Merci, les amis. Je suivrai vos conseils, laissant à d'autres plus hardis et mieux armés le soin de s'attaquer au monstre. » Cependant, le serpent, toujours bien de sa race, rappela d'un ton doucereux « Le roi a promis fortune et honneur en récompense de sa capture. »«
Ne te laisse pas tenter, mon garçon !»
grommela de nouveau la chouette qui n'arrivait pas à se rendormir. « Oh, sois tranquille, grand-mère !» dit le Tzigane. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et je tiens à ma peau, plus qu'à celle du dragon !» Il n'eut plus envie de rire de son calembour, car où étaient passés ces deux chiens, Trutz et Mokant ? Et la fouine lui répondit, « Je les ai rencontrés, qui couraient à grande esbrouffe vers le cœur de la forêt. »
« Oh là là !»
Et la fauvette,
« Droit sur le monstre !»
Le Tzigane n'écoutait plus, sans réfléchir. Il s'était élancé, n'ayant peur que pour ses compagnons fidèles. Et il hurlait « Mokant, Trutz, ici, ici !» Tandis que, inaccessibles, les chiens fonçaient dans un fracas guerrier d'abois et de branches. Et soudain, alors qu'il croyait les avoir rattrapés, il ne les vit plus, ne les entendit plus. Et un étrange silence s'était abattu, si lourd que les feuilles mêmes cessèrent de frémir. Et le Tzigane cria encore « Mokant, Trutz, Mok !» La moitié du mot lui resta dans la gorge. Il se trouvait devant l'horrible bête, gigantesque, au corps recouvert d'écailles, avec des ailes qui semblaient faites de dures lames d'acier et ses énormes narines qui soufflaient du feu.
« De quel droit viens-tu troubler mon repos, Tzigane ?»
gronda-t-il d'une voix aussi terrifiante que sa vue. Le souci de ses chairs disparues l'emportant, Schwartz parvint à articuler « Je cherche mes chiens. Les avez-vous vus ?» Pfft ! Et les flammes qu'il rejeta par les narines répandirent une infernale odeur de souffle.
« Parles-tu de ces bruyants pucerons que je viens d'avaler ?»
À ce moment sortirent de la panse du dragon de rauques appels que Schwartz identifia douloureusement.
« Oui, je les ai gobés tout vivants. Ah, toi, je prendrai le temps de te mastiquer pour ne pas me charger l'estomac. »
Décidément intrépide, le Tzigane tira son couteau
et comme il peut arriver quand on oublie de craindre pour soi, le coup fut prodigieux, ouvrant dans le ventre de la bête une sorte de boutonnière d'où se ruèrent les chiens prisonniers. Hélas, on ne surprend pas par deux fois un dragon. Si les blessures de sa chair, d'ailleurs aussitôt refermées, furent à peine pour lui une égratignure, la blessure de son orgueil fut bien autre chose. Un combat sans merci transforma la clairière en un lac de sang boursouflé de touffes de poils et piqueté de fléchettes dures et droites comme des lames d'acier. Dans un bruit de tonnerre, le monstre, jusque-là invincible, le dévastateur des contrées, le mangeur de chair humaine, le dragon, s'effondra et le sol trembla sous son poids. Un homme, deux chiens et leur mutuel amour avaient accompli l'exploit impossible. Aussitôt, un immense alléluia clamé par toute la forêt, tous les animaux et les branches des arbres porta la nouvelle à travers le monde. Schwartz n'en fut pas impressionné. Il était occupé que de panser ses chiens, et ses chiens n'étaient occupés que d'étancher à grands coups de langue les blessures de leur Schwartz. Pas plus qu'aux chants joyeux répercutés au loin, ils ne prirent garde à ce bruit de fuite dans les branches. Un témoin invisible avait assisté au combat. Schwartz devait se le rappeler plus tard. Un autre événement acheva de les détourner de ce qui n'était pas leur cher trio reconstitué. Une source jaillissait près d'eux, soit qu'il s'agît de l'une de ces fontaines dites précisément intermittentes, ou bien d'une attention de la nature envers ses sauveurs. Ils s'y rafraîchirent avec délices. Ainsi revigorés, nos héros s'éloignèrent, laissant l'immense dépouille sur laquelle déjà avaient foncé de tous les points du ciel des bandes de corbeaux. Le Tzigane emportait en souvenir quelques-unes des plumes d'acier du géant abattu. Il les distribuerait aux enfants de sa compagnie. La grande route et la bonne poussière avaient achevé d'assécher leurs plaies quand ils arrivèrent non loin de la ville aux abords de laquelle se tassait la multicolore famille des errants. Mais des bruits de fanfares, des gens qui couraient en chantant, intriguèrent Schwartz et ses deux compagnons. Grâce à la fontaine miraculeuse, ils se crurent assez bonne mine pour n'être pas remarqués. Et après ce qu'ils venaient de vivre, ce bain de foule était réconfortant. Toutefois, quelle était donc la cause de cette effervescence? Nulle fête n'avait été annoncée, c'était même pas jour de marché. Des banderoles qui claquaient au vent surmontaient les rues. Si l'un de nos trois amis avait su lire, il était bien surpris. Les banderoles portaient en lettres majuscules ces mots: « Bienvenue à notre libérateur, vive notre libérateur bien-aimé !» Mais aucun des trois ne savait lire. Seulement un gros homme voulant les chasser, nos tueurs de dragons ripostèrent, faisant front du rassemblement hostile qui les avait encerclés sur le champ. Nul ne peut dire ce qui serait arrivé sans un remous de la multitude et la dispersion des méchants gadgets. Un magnifique cortège s'avançait. En tête, un carrosse découvert. Le roi. Et aux côtés du roi, un personnage, lui aussi fastueusement vêtu et étincelant de bijoux. Sans doute, pensa Schwartz, un autre roi en visite. Tous deux également acclamés par le peuple en délire. Sur la grande place, le cortège s'arrêta. Là, supportant deux fauteuils de velours et d'or, un trône avait été dressé où montèrent le souverain et son invité. Puis l'on fit silence. Le roi allait parler. « Mes chers vaillants sujets, vous voyez à ma droite le plus vaillant d'entre vous, Arnolphe Barré, qui, au péril de sa vie, vient de nous sauver tous en terrassant le dragon. Oh, lèse-majesté, crime inexpiable, un rire sonore interrompit le roi, frappant la foule d'une épouvante quasi sacrée, tandis que le Tzigane, car c'était lui, riait toujours.
Que l'on m'amène cet homme, ordonna le roi, qui jugea bon de préciser vivant et indemne.
Il fallait donc renoncer au plaisir de lyncher le gitan et se contenter de le pousser à coups sournois, lui et ses chiens, au pied du trône.
Qui es-tu pour rire des paroles de ton roi ?
Je suis celui qui terrassa le dragon.
Je veux dire, moi et mes chiens.
Viens plus près, Tzigane.
Tu as l'air d'un honnête homme. Mais comment pourras-tu prouver ce que tu avances ?
Que votre majesté regarde à sa droite ?
Sa majesté tourna la tête. Le fauteuil de droite était vide. L'imposteur, en s'enfuyant, prouvait avec éclat la bonne foi du Tzigane.
« Cet homme sera châtié selon sa faute !»
décréta le roi. « Mais comment réparer le tort qui te fut fait ? Et comment récompenser ta bravoure ? Parle ! Que veux-tu ?»
Durant cette solennelle proclamation, tous les assistants baissaient la tête. Quelques-uns transpiraient d'anxiété. Le gros homme qui avait molesté le trio tout à l'heure témoigna pour s'éclipser d'une souplesse d'anguille, suivie par ceux qui lui avaient prêté main forte.
« Ne m'entends-tu pas ? Quoi que tu demandes, je te l'accorde !»
La foule s'éclaircissait à vue d'œil. Le gitan allait demander leur tête à tous, c'était sûr, ou leur terre, ou leur bétail. Ah, que cet Arnolf avait donc mal organisé son affaire !«
Je peux te donner tout l'or de mes coffres !»«
Il crèverait ma besace !»«
Je peux te donner des villes !»
Mais qu'en ferais-je ? J'ai toute la terre.
Eh bien, me diras-tu ?
Le roi s'impatientait, vexé par l'indifférence de cet homme, pauvre entre les pauvres, et qui dédaignait ses présents. Et quel présent ! Enfin, Schwartz parut comprendre ce qui lui arrivait. Il parla. « Puisque vous tenez tant à me faire plaisir, grand roi, ne punissez pas le pauvre Arnolf. Il aurait bien voulu tuer le dragon.
C'est pas sa faute. » Si je l'ai devancé. »
Un murmure gros de repentir et d'admiration parcourut l'assistance qui resserra ses rangs.
Il sera fait selon ton désir, mon fils. N'as-tu pas d'autres vœux ?
Passé les premiers moments de l'exubérante gratitude, le roi ne refusait pas de s'en tirer à bon compte.
Eh bien, oui. Finalement, je voudrais quelque chose. Ce serait un édit par lequel votre majesté accorderait droit de séjour à toutes les compagnies de Tzigane qui traverseraient son royaume.
Tu as ma parole. Eh bien, musique sur ces belles paroles, justement.
Chères auditrices et chers auditeurs, merci d'avoir écouté une autre émission de contes. Il y en a eu des meilleures, mais j'aime bien les Tziganes et c'est bien de leur faire honneur. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine. Oh, yeah.
Zöld az erdő, zöld a hegy is.
Nagyon sok
Tavas bakhtalam.
Saburishi.